partir de 9h10 TU sur RFI.
Il est 18h30 déjà à Paris, l'heure du débat du soir avec Romain Ouzoui. Bonsoir Romain et bon débat.
Bonsoir, merci à vous Véronique. On va vous parler ce soir de protectionnisme et de libre-échange dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
Et voilà deux concepts qui sont mis à rude épreuve par l'actualité. Le libre-échange, il en a été beaucoup question lors des discussions sur un accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Et puis, depuis plus d'un mois, le protectionnisme revient en force, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les droits de douane brandis par l'administration Trump à l'égard de partenaires traditionnels des États-Unis. D'où notre question ce soir, protectionnisme, libre-échange, quelle est la bonne voie? Quelles sont les conséquences de la guerre commerciale menée par le président américain? Comment répondre, comment relancer les échanges tout en évitant les dérives? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Sylvie Matelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors, autrice du livre « Géopolitique de l'économie ». Face à vous, Pauline Wibaud, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste au CEPI, au sein du programme « Analyse du commerce international ». Et notre troisième invité en ligne avec nous, bonsoir Nicolas Roux.
Bonsoir.
Membre du conseil d'administration d'Attac, enseignant en commerce international à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Sylvie Matelli, pour camper le décor, à quel point est-ce que la politique américaine actuelle bouleverse le commerce mondial? Est-ce que c'est totalement novateur, un tel protectionnisme, tel qu'il est prôné, tel qu'il est mené aujourd'hui par Donald Trump?
Alors, oui et non, parce que les États-Unis, il faut se rappeler qu'avant la Seconde Guerre mondiale, était un pays très protectionniste. Le protectionnisme était une tradition, on protégeait parce que c'était une jeune économie. Et puis, le protectionnisme avait été renforcé aux États-Unis après la crise de 1929. Ça avait été le réflexe. On se souvient d'ailleurs qu'au moment de la crise de 2008, quand les chefs d'État se retrouvent à Washington, le leitmotiv, c'est de dire, ils sont d'accord sur rien, mais c'est de dire, attention, ne commettons pas les mêmes erreurs qu'en 1929 et donc ne revenons pas à un protectionnisme. Par contre, ce qui est très très intéressant, c'est de voir que moi je crois, et puis on va peut-être rentrer dans ce débat-là, je crois qu'on est au-delà du protectionnisme et au-delà de la guerre commerciale dans le cas de ce qui est en train de nous proposer Donald Trump. Le protectionnisme de Donald Trump, la guerre commerciale, c'était Trump 1. Trump 2, c'est encore autre chose. Et je crois qu'il est en train de reprendre ce qui a été théorisé par l'administration Trump et par en particulier Janet Yellen, c'est cette mondialisation des amis. Mais ces amis, ce ne sont pas des démocraties, ce n'est pas fondé sur les valeurs. Ces amis, ce sont les pays, les partenaires avec qui ils voient des intérêts. Et donc la Russie est aujourd'hui, fait partie aujourd'hui de ces amis, alors qu'elle ne l'était pas du tout dans le précédent mandat. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a des terres rares, des ressources naturelles. Donc on n'est même plus dans une logique de protection. On est dans une logique plus offensive, où on va chercher une logique plus impérialiste, ça a été dit à certains égards, et une logique qui est très 19e siècle en fait, hein, et les conquêtes de notre temps, où on va chercher des partenariats là où on a des intérêts stratégiques majeurs.
Et c'est la recherche du profit qui prime, quelles que soient les divergences géopolitiques importantes, États-Unis-Russie, elles sont importantes.
Oui,
Mais quelles sont les conséquences de cette
Alors, les conséquences, politique? Les conséquences de cette politique, elles sont énormes. Elles sont d'ailleurs majeures pour les Européens, bien évidemment, puisqu'ils se retrouvent avec un partenaire commercial qui, objectivement, est leur principal partenaire commercial, qui aujourd'hui détourne le regard et se cherche des partenariats ailleurs. En particulier, si on réfléchit quels sont les atouts aujourd'hui des Européens face à Trump, eh bien, certes, on a un marché très important. Certes, on a une politique commerciale commune, mais malgré tout, on n'a pas les mêmes atouts que ceux que trouve Donald Trump à la Russie. Et puis, pour le reste du monde, bien évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement déstabilisant, parce que si vous présentez aucun intérêt, eh bien, le président américain n'aura aucun intérêt à vous faire à accepter certaines concessions, et il regardera les droits de douane, et là, il mènera sa politique commerciale, et il appliquera les droits de douane comme il l'a promis.
Pauline Wibaud, est-ce que vous avez la même lecture? On parle ce soir, protectionnisme, libre-échange, Sylvie Matelli nous dit qu'on est, avec Donald Trump, face à un nouveau concept, un troisième concept.
Je pense qu'elle a raison sur ce point. On est en effet l'instrument du droit douane et de la politique commerciale de manière générale, Trump le voit vraiment comme un instrument de coercition. On le voit quand il met des droits de douane sur le Mexique et le Canada, qui sont ses premiers partenaires commerciaux. Ça ne fait pas sens d'un point de vue purement économique de faire ça. Et la justification première, c'est là, le contrôle des frontières qui, selon Donald Trump, n'est pas assuré par le Canada ni par le Mexique. Donc on voit bien que l'argument de l'utilisation de la politique commerciale va au-delà d'un simple argument de protectionnisme cette fois-ci.
Donc c'est finalement un mix, je dirais, entre un argument politique, tel que vous l'évoquez, et puis un argument économique qu'évoquait Sylvie Matelli, qui fait que Donald Trump va jusqu'à faire des deals avec la Russie.
Oui,
il y a un peu les deux.
Et oui, exactement. Et on le retrouve aussi beaucoup dans l'environnement international aujourd'hui. La géopolitique, elle s'est invitée dans les relations commerciales et ça a commencé un peu avant Trump aussi. On a eu toutes ces questions suite à la pandémie de Covid, à la guerre en Ukraine. On a eu des grosses tensions dans les chaînes de valeur internationales, dans les relations commerciales. Et justement, on se pose aujourd'hui la question de avec qui on veut faire du commerce. Qui sont nos alliés ? Qui sont nos amis parce qu'on a les mêmes valeurs, démocratiques ou pas. On a de la politique dans l'économie aujourd'hui et dans l'économie internationale beaucoup plus qu'avant.
Mais qui sont nos amis et qui peuvent promouvoir aujourd'hui les accords de libre-échange, c'est quelque chose qui est complètement remis en cause. Quand on voit Donald Trump, justement, la politique qu'il mène à l'égard des pays amis des États-Unis historiquement et à qui il brandit des droits de douane toujours plus importants.
Oui, là encore, c'est aussi parce qu'il y a une dimension de coercition et je pense qu'il a il entend la politique commerciale vraiment comme un instrument et pas forcément comme quelque chose qui... Je pense qu'il met de côté un peu aussi l'un des impacts négatifs que ça peut avoir sur sa propre économie, sur les économies de pays alliés.
Nicolas Roux, alors c'est une question un peu frontale. Est-ce que finalement Donald Trump, on peut parler de libre-échange le concernant ? Évidemment, le premier mot, c'est je vois sourire. Non, mais quand par exemple il s'entend sur les terres rares, les métaux rares avec l'Ukraine par exemple, est-ce que ça peut promouvoir un libre-échange dans le monde ? Ou est-ce que c'est uniquement au profit des États-Unis ?
Alors, clairement, là, moi je suis d'accord avec les précédentes interlocutrices, c'est que clairement, le Donald Trump met en avant une politique que moi je définirais presque d'impériale, dans la mesure où les États-Unis ont toujours mis en avant de façon leur intérêt stratégique sous différentes formes. Et là, on voit clairement une volonté en fait, de Donald Trump, quelque part, de remettre à l'ordre ce qu'il estime être sa sphère d'influence. Donc, par exemple, comme la Colombie qui refuse de reprendre ses migrants, lui impose des droits tarifs, des tarifs douaniers. Pareil pour le Mexique et le Canada, c'était mentionné. Des pays de l'Union européenne qui veulent mettre en place ou qui mettent en place des taxes sur les services numériques des compagnies de la Silicon Valley. Et pareil, qui vont souvent faire face à une guerre commerciale. Donc on a cette logique coercitive, comme ça a été mentionné précédemment. Et par rapport au rapprochement à la Russie, je pense aussi qu'on retombe finalement dans une logique de ce qu'on appelait un peu la realpolitik dans les années 70, qui était mise en avant notamment par Kissinger, donc ancien chef de la diplomatie américaine, qui avait ciblé comme cible principale la Chine, et pour cela avait réchauffé les rapports avec la Russie. Avec la Russie, parce que ce qui avait été estimé un problème pour les États-Unis, c'était le rapprochement entre les États-Unis et la Chine. Et là, quand on voit que Donald Trump se rapproche de la Russie, on peut penser qu'on retombe dans cette politique de Kissinger, donc de ne pas créer une alliance trop forte entre la Russie et la Chine. Mais je voudrais juste en revenir deux secondes sur le mot protectionnisme. Parce que souvent, le mot protectionnisme est mis en avant comme une sorte de gros mot depuis une trentaine d'années. Alors que c'est une politique économique finalement qui est assez légitime, qui a été mise en place comme on le soulignait précédemment par les États-Unis il y a quelques années, qui a été mise en place par toutes les grosses puissances économiques dans leur phase de développement et qui finalement n'est pas quelque chose qui se rapproche d'une autarcie ou d'un repli sur soi-même. Comme on l'identifie souvent.
Non, mais d'ailleurs, on peut peut-être faire des reproches au protectionnisme, comme on peut en faire au libre-échange, et c'est tout l'enjeu de notre débat ce soir. Et c'est intéressant que vous rappeliez que finalement, s'il y a bien un fil conducteur dans la politique de Donald Trump, c'est tenir à l'écart la Chine. Nicolas Roux, j'ai posé à Sylvie Matelli la question des conséquences de cette guerre commerciale de Donald Trump. À quel point est-ce que cela bouleverse le commerce mondial aujourd'hui ? encore une fois, régie par protectionnisme ou libre-échange.
Alors, clairement, on a un gros changement, comme ça a été souligné plus tôt, notamment du fait de l'attitude de Donald Trump, qui a l'air très, très pressé. Après, pour être parfaitement net, il est encore un peu trop tôt pour analyser toute la mesure de ses politiques et aussi la vision multipolaire qui a mis en avant le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Mais clairement, on s'inscrit quand même dans quelque chose qui a commencé depuis quelques années. Je veux dire, la guerre commerciale contre la Chine a déjà commencé un peu sous l'ère Obama, a été renforcée après sur le premier mandat de Trump et ensuite par Joe Biden. Et donc, on s'inscrit un peu dans cette continuité. Pareil par rapport à l'Organisation mondiale du commerce, qui régit un peu les rapports commerciaux depuis les années 90. C'est sous Obama qu'on a commencé à avoir les premières attaques contre l'OMC. Donc, vous avez à la fois un changement assez violent avec l'imposition de tarifs douaniers très coercitifs vis-à-vis d'alliés traditionnels et à la fois quand même une sorte de continuation de politiques qui sont mises en œuvre depuis quelques mandats déjà.
Et d'ailleurs, en réponse à ce protectionnisme, il y a une politique de libre-échange qui se met en place depuis plusieurs années. Depuis 2017, l'Union européenne a négocié 8 accords. Elle a annoncé la reprise des discussions d'un autre accord avec la Malaisie. Et puis la Chine, elle a conclu 9 accords, dont un partenariat historique qui réunit 15 nations en Asie. D'où ma question, Sylvie Matelli, est-ce que finalement cette politique toujours plus forte de Donald Trump, elle va promouvoir encore plus de libre-échange en réponse?
Alors, les accords de libre-échange ne sont pas véritablement du libre-échange tel qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire, le libre-échange, on l'a pensé, on ne l'a jamais fait, mais on l'a pensé dans le cadre d'organisations internationales. Ça a été le GATT et l'accord sur les échanges et les droits de douane qui a précédé l'OMC. Ça a été ensuite l'OMC. À partir du moment où on entre dans une phase où l'OMC est empêché de travailler par diverses raisons, et ça a déjà été dit, et les choses n'avancent pas, et d'ailleurs, c'est très intéressant que de noter que l'OMC bloque véritablement à faire passer un dossier qui réunissait autour de la table, et pour une fois on avait entendu la voix des pays du Sud, puisque c'était le cycle de négociation de Doha qui portait sur le commerce et le développement, et le lien entre le commerce et le développement, parce que c'est ça qui est fondamental, hein. C'est pas le libre-échange ou le protectionnisme, c'est quel est l'intérêt en fait d'échanger à un moment donné. Et donc, quand on négocie des accords de libre-échange, et il ne vous aura pas échappé dans ce que vous avez cité, que vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de l'Union européenne, en général, plus on est gros, plus on est fort, et plus on peut imposer ses conditions et profiter. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le cas avec les accords de libre-échange qui ont été signés par la Commission européenne et par l'Union européenne ces dernières années. C'est que quel que soit le secteur que l'on regarde, il y a quand même des gains très nets qui ont été négociés, qui sont beaucoup plus importants pour les Européens que pour les partenaires. Les Canadiens récemment viennent d'ailleurs de se poser la question du CETA en se disant « Ah ben finalement, ça profite beaucoup plus à l'Union Européenne que ça nous profite à nous ». Mais c'était évident parce que les forces en présence n'étaient pas les mêmes. Et donc là, ça questionne parce que dans l'analyse économique, ce qui peut motiver à un moment donné le libre-échange face à du protectionnisme, c'est que le protectionnisme est très injuste en réalité et qu'il n'est possible que dans certaines situations, pour certains pays, et qu'il affecte, quand c'est un grand pays qui adopte des mesures de protectionnisme, ça affecte très fortement les marchés et donc ça affecte très fortement les pays les moins favorisés. Donc,
est-ce qu'on ne peut pas faire les mêmes critiques à l'égard du libre-échange? C'était notamment des critiques qui étaient évoquées lors de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, le fait que finalement ce soit les plus favorisés, les pays les plus développés qui en profitent.
Mais, et c'est ce que je suis en train exactement de vous dire, c'est-à-dire que finalement
les mêmes torts aux deux concepts.
C'est ça, exactement. Et ces accords de libre-échange ne mettent absolument pas sur un pied d'égalité les parties en présence, puisque par définition ce sont des accords, donc issus d'une négociation, et donc par définition dans une négociation vous avez des rapports de force et des différences de force et de pouvoir de négociation.
Pauline Wibeau, quand je demandais en fait à quel point ça bouleverse le commerce mondial ce qu'est en train de faire Donald Trump, en fait la question en sous-titre c'est est-ce que l'Organisation mondiale du commerce telle qu'elle existe depuis 30 ans cette année, elle est remise en cause aujourd'hui?
L'Organisation mondiale du commerce, ça fait quelques années qu'elle est remise en cause, comme ça a été évoqué juste avant. Je pense que ça La dernière annonce de Donald Trump de mettre des droits de douane réciproques, donc ça veut dire que si les produits américains sont taxés à un niveau de 10% par les pays partenaires, les États-Unis taxent aussi de 10%. Ça remet en cause le principe, un des principes majeurs de l'OMC, qui est la réciprocité et la non-discrimination. Donc forcément, ça pose question. Encore une fois, l'OMC, ça fait des années que cette organisation ne fonctionne pas très bien, enfin plus très bien, et je pense que ça tient, son avenir tient beaucoup au comportement des pays qui restent. Et donc typiquement, qu'est-ce que l'Union européenne va vouloir faire ? L'Union européenne, c'est une grande défenseuse de l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est une organisation qui bâtit un système commercial fondé sur les règles et fondé sur le multilatéralisme.
Mais justement, face à la hausse des droits de douane, l'Union européenne, elle a d'autres choix que d'imposer une réciprocité, parce que c'est sans fin, c'est un cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux, en effet, et c'est pour ça aussi que, enfin, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément parce que les États-Unis prennent un tournant protectionniste que d'autres pays vont prendre un tournant libre-échangiste. Et on le voit typiquement, encore une fois, avec le comportement de l'Union européenne, on est vraiment sur une ligne de crête. On signe des accords commerciaux parce qu'on a aussi des besoins de diversification, parce que les États-Unis laissent une place sur la scène internationale, on veut éviter que la Chine la prenne. Donc on veut nous garder des parts de marché aussi, et c'est la même logique, je pense, du côté de la Chine. Mais en même temps, justement parce qu'on a un gros pays qui est protectionniste et on a une Organisation mondiale du commerce qui tient plus très bien debout, on a du coup un gros besoin de protéger son marché. Et l'Union européenne, c'est ce qu'elle a fait dans les dernières années. Elle a mis en place des réformes sur ses instruments de défense commerciale. Elle a mis en place un instrument anti-coercition, justement, en 2023. Et donc, on est vraiment sur, c'est ce que je dis, sur une ligne de crête entre, oui, on veut garder des accords commerciaux et on veut avoir ce côté libre-échangiste, toujours en restant les règles de l'OMC et du multilatéralisme, parce que c'est très important pour l'Union européenne, ce qui va peut-être aider l'OMC. Mais en même temps, on ne peut pas rester complètement passif face à ce protectionnisme complètement dérégulé qui nous arrive en face.
Mais cette ligne de crête, elle est tenable ? On risque pas de tomber dans le trou face à face aux mesures Trump ?
Là, je pense qu'on est dans l'incertitude et je n'ai pas besoin de l'expliquer. On voit bien avec les mesures de Trump qui sont annoncées. Je pense que ça dépend un peu de comment il se réveille le matin, quoi.
Sylvie Matelli.
Oui, mais je crois, pour compléter ce qu'a dit Pauline, je crois que ça rajoute encore un enjeu dans les accords de libre-échange ou les accords commerciaux que l'on citerait avec des partenaires, parce que ce qui va être très important dans les mois et les années qui viennent, c'est de pouvoir faire face à Trump aussi uni que possible, avec autant de partenaires que possible en réalité. Parce que si on lui laisse la main et si on cède à tout ce qu'il souhaite, c'est son monde qui va s'imposer. Je ne suis pas sûre qu'on puisse aujourd'hui stopper et empêcher que son monde s'impose, mais il n'empêche que si on a un certain nombre de pays qui sont plutôt favorables, alors on ne va peut-être pas rêver à un retour à l'OMC, quoique les Chinois commencent à en parler un petit peu, au fond, est-ce qu'un monde régulé, c'était pas quand même mieux que cette jungle que nous promet M. Trump ? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que
on peut reprendre plus en main l'OMC ?
Alors, je ne sais pas si ça va passer par l'OMC encore une fois, même si c'est une institution qui a le mérite d'exister et qui pourrait effectivement reprendre quelque part une initiative. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut arriver à fédérer autant de pays que possible pour éviter que le protectionnisme ou en tout cas l'impérialisme tel que les relations commerciales internationales qu'imagine Donald Trump ne deviennent de la règle en réalité.
Mais ça ressemble à ces pays qui seraient ensemble sous une politique de libre-échange pour répondre au protectionnisme de Trump.
Oui, tout à fait.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Protectionnisme, libre-échange, quelle est la bonne voie ? La question qu'on pose ce soir, alors que la politique de Donald Trump, pour dire en quelques mots finalement, crée ce dilemme. Est-ce qu'il faut reculer sur le libre-échange au risque d'un repli nationaliste, on n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il faut répondre en créant de nouvelles barrières aux échanges au risque de perdre les gains tirés du commerce? Mes trois invités ce soir sont Sylvie Matelli, économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors, autrice du livre Géopolitique de l'économie, Pauline Wibaud, économiste au CEPI, au sein du programme Analyse du commerce international, et Nicolas Roux, membre du conseil d'administration d'Attac, enseignant en commerce international à l'université Jean Moulin Lyon 3. On va essayer un petit peu de prendre de la hauteur, on a compris finalement l'enjeu entre libre-échange en réponse potentiellement, comme nous le dit Sylvie Matelli, au protectionnisme à outrance de Donald Trump. Nicolas Roux, qu'est-ce que cette situation, le fait que deux concepts finalement comme protectionnisme et libre-échange coexistent aujourd'hui, doivent coexister aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de notre époque aujourd'hui, de la situation dans laquelle se trouve le monde?
Ça dit que, alors, à mon avis, ça dit que le monde est en train de changer. Comme vous le soulignez, on a l'apparition quand même de dirigeants de plus en plus autoritaires, on a des crises géopolitiques de plus en plus graves à travers le monde. Et comme vous le disiez, je pense qu'il est important de prendre de la hauteur et de sortir de cette dichotomie protectionnisme contre libre-échange, autoritarisme contre libre-échange, etc.
Mais les deux concepts aujourd'hui, est-ce qu'ils apportent plus de méfaits que de bienfaits?
Dans une certaine mesure, en fait, le libre-échange a apporté beaucoup de méfaits. Pour citer un des directeurs de la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement, qui disait que les accords de libre-échange, ce ne sont pas des accords, ils ne sont pas libres et ne traitent pas d'échange. Donc, ça résume bien, en fait, ce qu'ont été les accords de libre-échange depuis les années 90 et qui ont été des symboles, en fait, de cette mondialisation effrénée qui a montré complètement ses limites déjà avec la crise des subprimes en 2008 et qui a, il faut souligner, bénéficié quand même majoritairement à des grosses entreprises multinationales, tant au niveau du capital qu'au niveau de l'accaparement des connaissances, de la propriété intellectuelle, des brevets, etc. Donc je pense que maintenant, on est à une période, à une ère où on a des crises, comme je disais, géopolitiques, une crise climatique, des crises humanitaires. Donc c'est important de repenser en fait nos systèmes commerciaux et de sortir de cette idée que seuls les accords de libre-échange, comme le semble penser la Commission européenne, peuvent en fait nous sortir des crises actuelles. Les accords de libre-échange, encore une fois, sont le fruit d'un monde qui n'existe plus. Le monde des années 90, avec la chute du bloc soviétique, avec l'avènement de cette mondialisation néolibérale, qui a encore une fois montré ses limites. Donc maintenant, repensons le commerce international en mettant au cœur les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux, et comment réfléchir en fait à collaborer ensemble. Si c'est mettre un peu plus de protectionnisme sur certains secteurs, faisons-le. Un peu plus d'échanges sur certains secteurs, faisons-le. Mais réfléchissons ensemble à des moyens de contrer cette frénésie trumpienne ou autoritariste.
Quels pourraient être ces moyens? Alors ça peut être une question qu'on va essayer de poser, mais on en arrive à la réponse à notre débat. Sylvie Matelli, protectionnisme, libre-échange, quelle est la bonne voie? Aucun des deux. Parce que, en fait, le point commun, c'est l'unique recherche des profits et l'accroissement des inégalités.
Oui, et je pense que c'est ces deux concepts qui, certes, s'opposent, mais qui ont des effets pervers des deux côtés. Et je pense que le sujet, c'est repli sur soi, ouverture en réalité. On peut critiquer et trouver des tas de défauts et des tas d'effets pervers et de conséquences très négatives à la période de mondialisation que nous avons connue depuis les années 90. Il n'empêche que c'est aussi une période où jamais autant d'individus sur la planète n'avaient accédé à un minimum de consommation. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, il y a quand même eu des effets positifs. Et ça, c'est pourquoi? Parce que c'est lié à l'ouverture et à la capacité que ça a donné à un certain nombre de pays, à un certain nombre d'acteurs économiques, à un certain nombre de consommateurs, de participer à ce grand marché, à ce marché global. Donc, faut pas oublier ces éléments-là.
On l'oublie pas, mais la question, c'est... Ce n'est plus adapté.
Alors, c'est peut-être plus adapté, et c'est peut-être parce qu'on a sous-estimé les effets pervers et les conséquences négatives. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Donc, peut-être qu'il faut en tirer les leçons. Rappelez-vous, on avait commencé à les tirer, ces leçons, encore une fois, quand on a ouvert le cycle de Doha en 2001, qui était un cycle de négociations sur essayant de lier le commerce et le développement, pour que le commerce soit porteur de développement économique. Ça a bloqué pourquoi? Ça a bloqué sur les intérêts économiques et les intérêts commerciaux des grandes puissances, en fait, et en particulier
particulier autour de l'agriculture et d'autres sujets. Donc, je crois que si on veut aujourd'hui, et peut-être qu'aujourd'hui, la brutalité de ce que nous propose Monsieur Trump risque de nous donner une opportunité, en tout cas il faut le souhaiter, de réfléchir un petit peu plus à quelle relation on veut avoir entre nous, entre quelle relation économique, quelle relation commerciale, comment on accompagne un certain nombre de pays pour qu'ils se développent. Et encore une fois, j'ai tendance à dire que la solidarité, ça n'existe pas. La solidarité, les partenariats, c'est des intérêts bien compris, en fait. Le jour où un pays se développe, c'est aussi un marché pour d'autres. Et il est clair que sur la question de à qui profite et à qui a profité ce dynamisme de l'économie mondiale pendant toutes ces années, ce commerce international, quand on regarde l'augmentation et l'essor des inégalités et les conséquences politiques et sociales de ces inégalités, il faut impérativement se questionner là-dessus et accepter de se questionner là-dessus et d'en tirer les leçons qui s'imposent.
Alors comment en tirer les leçons, Pauline Wibaud ? Qu'est-ce qui peut ressortir du chaos commercial créé par Donald Trump quand Nicolas Roux disait « il faut repenser le commerce international ». Comment on le repense pour sortir de ce clivage ?
Je pense que la grosse question, et c'est en écho à ce que vient de dire Mathéi, c'est la redistribution des gains en commerce. Je ne pense pas qu'on ait jamais été...
Redistribution égalitaire.
Oui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de ces gains en commerce et en tant qu'État. Parce que si on regarde les déterminants du protectionnisme, en particulier aux États-Unis avec Trump, c'est la question qui revient toujours, et le gros déterminant, c'est qui a le plus subi la mondialisation. Et on le voit, c'est ceux qui ont, c'est les zones urbaines et c'est les industries manufacturières qui ont le plus perdu avec la mondialisation aux États-Unis, qui ont le plus voté pour Donald Trump et qui ont le plus voté du coup pour quelqu'un d'aussi protectionniste, parce que c'était la politique qui leur vendait. Donc je pense que c'est vraiment cette question-là qu'il faut remettre au centre du débat, dans cette nouvelle organisation du commerce qu'on veut mettre en place. Il faut aussi se poser la question de l'impact sur l'environnement du commerce. On a de plus en plus de normes environnementales qui sont incluses dans les accords commerciaux qu'on signe aujourd'hui. Il faut s'assurer qu'elles y soient, il faut s'assurer qu'elles soient appliquées, ce qui n'est pas toujours évident, ça c'est sûr.
Est-ce que ce sont des questions qu'on pourra se poser que dans 4 ans, à la fin du mandat de Donald Trump ?
Non.
Comment les mettre en œuvre demain ?
Typiquement, les accords commerciaux, on les signe déjà. Les normes sociales, environnementales, on les met déjà en place. On n'a pas attendu Trump pour commencer à faire ça. Il va falloir, par contre, en effet, mettre les moyens pour faire en sorte que tout ça se soit appliqué et qu'on ait justement une nouvelle organisation du commerce.
Sylvie Matelli, en un mot, vous y croyez ?
Alors, je ne sais pas si...
Au scénario évoqué par Paul Nuibo.
Je ne sais pas si j'y crois. La question que je me pose, par contre, et je rejoins ce qu'a dit Pauline, la question que je me pose, c'est jusqu'à quand ça va tenir Donald Trump en réalité ? Parce que c'est tellement violent, tellement extrême, que ça va avoir des conséquences assez rapides, et pas seulement économiques ou commerciales, des conséquences politiques, des conséquences sociales qui sont évidentes. Et donc, à quel moment, bien, il va être obligé de... rabaisser un petit peu ses ambitions. Ça peut être demain, ça peut être dans quelques années, ça peut être dans 4 ans, effectivement.
Et bah, suivre, en tout cas, finalement, la bonne voie, c'est ni protectionnisme, ni libre-échange, c'est pas l'avenir demain. Et puis, je retiens ce que vous avez dit, Pauline Wibaud, c'est pas parce que les États-Unis prennent un tournant protectionniste que d'autres pays vont prendre un tournant libre-échangiste. Merci beaucoup à vous trois, Sylvie Matelli, Pauline Wibaud, Nicolas Roux. Merci beaucoup à Florence Ponce et Arnold Lassevoix qui étaient à la préparation de ce débat du jour. Et merci à Claude Battista à la réalisation, merci à la documentation de Radio France Internationale. Et rendez-vous sur notre site internet rfi.fr pour écouter, podcaster ce débat du jour. Allez, coup d'œil à la pendule, il est 18h58 ici à Paris. Dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange. Et puis, après notre session soirée, 19h30, dans 30 minutes, Afrique Soir, la première édition. Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Romain.
Quel programme ce soir ?
La France menace de dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie. Paris va demander le réexamen total de ces accords et la manière dont ils sont appliqués, annonce du Premier ministre François Bayrou après un comité interministériel sur le contrôle de l'immigration. Alger, vous le savez, a refusé à de nombreuses reprises ces dernières semaines de laisser entrer sur son territoire plusieurs de ses ressortissants expulsés de France. Dans l'actualité africaine également, la fin de la visite visite en République démocratique du Congo du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat dans l'est du pays. Son bureau enquête sur de graves crimes commis depuis l'offensive de la rébellion du M23 appuyée par l'armée rwandaise. Et puis le Cap, capitale financière du monde, on est en Afrique du Sud, en marge du G20 qui se tient sans le ministre des Finances des États-Unis, a eu lieu la 5e édition de Finances en commun qui regroupe plus de 500 banques de développement avec plein de projets à la clé.
Bon, on suit ça dans 30 minutes. Plein d'informations. À suivre le grand journal du soir sur Radio France.